Ce matin, on va parler d'un sujet très important. Je vous invite de se lever pour un moment et on va lire deux extraits de la parole de Dieu ensemble. Matthieu chapitre 16, verset 17. Matthieu 16, verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Pas révélé par des hommes, mais révélé, une révélation par Dieu. Galates chapitre 1. Galates chapitre 1, verset 12. Paul est en train de parler de le fait qu'il avait une charge d'être un apôtre. Car je n'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Prions. Seigneur, merci pour ce matin. Merci parce que tu es un Dieu qui parle. Nous sommes là pour écouter. Remplis-nous avec ton esprit et conduis. Ouvre nos cœurs afin qu'on puisse comprendre les délices, les choses merveilleuses de ta parole. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous puisse être assis. Merci. Donc, nous avons la Bible. Et la Bible, entre Genèse et Apocalypse, est la pleine révélation de Dieu. Je propose de donner, parce que c'est bien d'expliquer pour le sens théologique. Dieu révèle les choses. Révélation. Vous pouvez voir, c'est visible? Oui? Révélation, je vais essayer de... Oups, trop longue. Premier mot, révélation. Théologiquement, une révélation vient de Dieu et Dieu révèle les choses. Il a révélé aux prophètes, il a révélé aux apôtres, et il a révélé afin que sa parole peut être complètement écrite. La parole de Dieu, la Bible, elle s'appelle Logos. Ça, c'est important. Je vais utiliser un mot grec ici. Logos, c'est la parole et les pensées entièrement de Dieu. En Actes chapitre 20, verset 27, le plein conseil, les pleines pensées de Dieu. Et la pensée de Dieu et le but de Dieu était sa parole, ses pensées sur chaque sujet peut être révélé. Et la deuxième chose, inspiration. Ce n'est pas un cours biblique que je suis en train d'enseigner ce matin, mais c'est intéressant pour nous tous. Inspirer. 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Chaque parole est inspirée. Ça veut dire que Dieu souffle. Et c'est sa parole. Et donc, inspiration. Ça veut dire quoi? Quand la parole était révélée, quand les pensées de Dieu sont révélées, certains sont choisis d'écrire exactement que il veut. Ça veut dire 2 Pierre chapitre 1, je crois que c'est verset, est-ce que c'est 12, 13, parle de le fait que des hommes pieux de Dieu sont dirigés, conduits, et le Saint-Esprit a soufflé pour diriger. Donc, inspiration afin que les écritures originelles dans ces langues hébreu, araméque et grec sont des inspirations. Littéralement, c'est Dieu en train de parler. Nous avons maintenant les traductions en français, anglais et plusieurs langues. Mais l'idée est Dieu révèle par les écritures originales, par la langue originale. Et c'est la raison que nous avons certains si on sont érudits, certains si sont les spécialistes pour comprendre les langues originales, pour communiquer les concepts de Dieu. Parce qu'il y a certaines choses qui ne passent pas dans une traduction. Nous sommes de plusieurs langues ici. Certains de nous, nous avons notre langue maternelle. Évidemment, il y a certains mots qui ne peuvent pas passer une barrière de traduction. Dieu utilise certains pour nous aider dans l'Église de comprendre le sens de chaque parole. Inspiration, révélation, inspiration. Illumination. Cette salle est illuminée. Nous avons des spots ici pour illuminer afin que vous puissiez me voir sur cette strade. Illumination. Je crois en français vous avez une expression. Illumine-moi. C'est ça? On peut dire ça. Enlighten me en anglais. Illumine-moi en français. C'est vrai? Je suis pas l'expert en français donc. Donc, illumination. Je parle ici des termes théologiques, mais on va entrer dans le contenu de ce message dans une minute. Illumination. Quand on ouvre notre Bible, et il y a un éclairage, il y a un éclair. Ah, wow! Je loue quelque chose, et pouf! Illumination. On n'est pas dans un sens théologique, révélation, ah, Dieu a révélé quelque chose à moi. Oui, dans un sens, mais théologiquement, tout était déjà révélé. Ça, c'est important. J'ai dit l'illumination sur les paroles, ça s'appelle des rhéma. Le mot grec pour une parole à propos personnel pour moi, rhéma. L'homme peut pas vivre uniquement par le pain. Matthieu 4:4, Luc 4:4, Deutéronome 8:3. Mais par chaque parole, chaque rhéma, chaque idée, chaque concept qui sort de la bouche de Dieu, évidemment avec le souffle de Dieu, un rhéma est une illumination. Illumination, rhéma. Vous avez, si vous avez marché avec le Seigneur, vous avez déjà des rhéma dans vos vies. Jérémie 29, 11, qu'il a des plans de paix et pas de malheur, il va donner un futur. C'est le verset qui m'envoie ici en Suisse, plus de combien d'années? Depuis 2004. C'est le verset donné. Proverbe chapitre 3, versets 5 et 6, c'était le verset donné pour moi, pour notre mariage, c'est une parole à propos. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7, on ne marche pas par la vue, mais par la foi. Une parole donnée personnellement quand on est en train de choisir un appartement. Je vous encourage, quand Dieu parle, et il donne un verset personnellement pour toi, pour vous tous. Garde cette parole parce que ça va être un indicateur pendant notre voyage sur la terre. Et on va tourner 10 ans après et on peut dire, le Seigneur était fidèle ici. Il a donné cette parole. Je peux donner des versets. Le Seigneur a révélé, illuminé, si on veut être pressé, dans mon cœur, dans un moment pressé. Quand les gens disent, mais est-ce que Dieu parle? Oh, absolument. Illumination. Il est en train de nous illuminer ce matin et peut-être le Saint-Esprit en train de travailler maintenant va faire quelque chose dans vos cœurs. Et quelqu'un dans cette salle va dire, j'ai rencontré Jésus-Christ ici qui parle de cette pupitre et ma vie était transformée. Illumination. Dieu est un Dieu qui est personnel. Un Dieu personnel qui est mort sur la croix pour nous et un Dieu qui veut parler personnellement à nous tous. Le diable, c'est une parole impersonnelle parce qu'il n'est pas relationnel. Notre Dieu est engagé pour la relation. Je vous exhorte, notez, si vous avez un verset, une promesse de Dieu, notez la date, notez l'heure, notez le verset précis, garde. C'est un trésor pour vous. C'est un trésor. C'est important de savoir ça. Parce que ça peut-être ne parle pas de quelqu'un d'autre, mais ça parle à toi. J'avais un ami qui était en train de s'éloigner de Dieu. Un chrétien, dans une bonne famille chrétienne. Il sort de vivre sa vie. Et il a reçu Ésaïe chapitre 61, verset 1 et partie 1. De verset 2. Le Seigneur, l'Esprit du Seigneur est sur moi. On rappelle ce verset. Et le Seigneur a donné ce verset à moi. Après. Et j'ai vu, littéralement, quand il est en train de partager quelque chose, c'était un homme, il était un visiteur, un pasteur visiteur. Et j'ai vu le verset sur lui. Et quand j'ai parlé avec lui après, j'ai dit, je veux cette verset. Tu es en train de parler et je veux cette verset. Il a dit, bien sûr, c'est le verset personnel pour moi. Moi qui m'a tourné vers le Seigneur. Après, j'ai passé des années ailleurs. C'est extraordinaire. C'est des trésors. C'est des valeurs. Et maintenant, avec ça, je propose d'entrer un peu plus. On a déjà dit le mot. On va parler dans le sens maintenant. Dieu toujours révèle les choses. Je vais répéter. La parole de Dieu est maintenant complétée, écrite et fermée. Ça veut dire qu'il n'y a plus de nouvelles révélations de Dieu. Il ne va pas révéler quelque chose de plus. Les Mormons, ils ont une nouvelle révélation de Dieu. Apparemment, c'est une. J'ai reçu d'un moment, il a donné ce livre, j'ai dit, oh, très bien, nouvelle révélation de Dieu. Bravo, parce que je n'étais pas au courant que Jésus a parlé plus. Après, il a fini avec Jean en Patmos. Révélation. Il faut faire attention. Dieu a déjà parlé et maintenant il juste révèle, si on peut utiliser ce mot, il illumine, il révèle des choses qu'il a déjà dit. Et dans vos vies, il faut retourner à la Bible. Et c'est la raison que notre assemblée et nos unions des églises, Église de la Grâce, Greater Grace, ont fait référence à la parole afin que vous pouvez vérifier pour vous-même de retourner. Ah, Dieu a dit, hier dans le temps des hommes, on a noté que c'est important qu'un homme est entouré par les autres. Il n'est pas seul. Il n'est pas, comme on dit, un lone ranger. Il n'est pas quelqu'un isolé et seul. Subjectivité est le danger. Et donc, quand il était connecté dans un corps de Christ, comme nous avons ici, avec des frères et sœurs, avec des amis qui sont aussi là pour aider, d'aiguiser, cette personne est équipée pour toute bonne œuvre. 2 Timothée chapitre 3, verset 17. Comment quelqu'un peut être équipé pour une guerre? Par être entraîné pour être un soldat. Comment on peut être équipé nous-mêmes? Ça s'appelle Institut biblique. Ça, c'est qu'on fait lundi soir et jeudi soir. Et vous êtes, je vous dis, juste une parenthèse, vous êtes en institut biblique si vous êtes inscrit ou pas. Mais c'est bien d'être inscrit parce que c'est structuré. Mais vous êtes en institut biblique parce que c'est une vie d'être enseigné. Mais le plus que nous sommes imbibés dans la parole, le plus que nous sommes discernants pour les pièges du diable, et le plus on est prêt et équipé pour aider les autres. Parce qu'on est imbibé, on est saturé, on est complété avec la parole de Dieu. Et on est plus utile pour le Seigneur parce qu'on est plus équipé pour le Seigneur. Donc, le mot, je ne vais pas vous bombarder et lancer des termes en grec, apocalypsis. Nous avons l'expression en français et en anglais apocalypse. C'est le nom du dernier livre du Nouveau Testament, Apocalypse. Apocalypsis, c'est ça. Quelque chose qui était caché et personne ne peut voir. Et révélé. Le voile est enlevé et quelque chose qui était caché, oui, je sais. Ce n'est pas le magique. Je ne veux pas dire, voilà, regarde et enlevé quelque chose sur une table. Mais de voir que quelque chose qui était caché est maintenant visible. Dieu est dans le business, on peut dire. Il est occupé à révéler les choses. À qui? Ésaïe chapitre 66, psaume 51 verset 17, psaume 32 verset 2. Ceux qui sont humiliés et brisés de cœur et esprit, les humbles, les débutants, ceux qui sont simples, c'est lui que je cherche. Je vais tourner dans un verset que je pense que c'est être intéressant. Je suis un peu dirigé dans une autre direction. Matthieu chapitre 11, verset 25. Dans cet verset, vous pouvez voir, c'est visible là, le mot, on peut voir caché et révélé dans le même verset. Caché. Je suis visible devant vous. Oui, visible. Mais dans le sens de Dieu, quelque chose qui est apparemment visible est caché à certains et révélé à certains autres. La catégorie de gens que Dieu cache quelque chose qui est visible est les sages et les intelligents. Pourquoi qu'il cache une pleine révélation, une pleine exposition, une pleine explication visible de lui? Parce qu'ils ne sont pas prêts. Sage et intelligent. Mais, n'est-ce pas, on a besoin de sagesse. Oui, mais quel sort, quel type de sagesse? Solomon était l'homme le plus sage, le fils de David. Solomon, roi d'Israël, était le plus sage. Sage. Mais sage parce qu'il a prié, il a dit, Seigneur, je suis un homme simple. Je suis un homme qui ne peut pas diriger Israël. Aide-moi. Donne la sagesse. Et il a reçu en Jacques chapitre 3 la sagesse d'en haut. La sagesse qui est paisible, qui est calme, qui n'est pas cherché le conflit, qui n'est pas rempli avec orgueil. Il a reçu un simple sagesse, une sagesse qui en Psaume 119, verset 130, la révélation de la parole est claire et rend les enfants, les simples, sages. Ça veut dire que c'est possible pour quelqu'un qui était simple d'être plus sage dans ce monde que quelqu'un qui est très intellectuel, quelqu'un qui est très érudit. Parce qu'on parle de deux types de sagesse ici. Quelqu'un qui était sage est rempli ici, enflé avec orgueil, parce qu'il avait beaucoup de connaissances. C'est possible. Mais pas la connaissance qui amène à la vie. Et c'est la sagesse que Dieu donne amène à la vie. Et c'est pour partager avec les autres. On va retourner dans le dernier verset. Donc, il a caché certaines choses. Les sages et les intelligents. Je peux être le plus sage dans le sens du monde qui existe, mais je peux être complètement à côté de la plaque, très inutile pour servir les autres. C'est possible. Il avait, je prends un exemple dans la tête maintenant, un philosophe qui était très bien pour expliquer des concepts, un philosophe français. Oh, il expliquait des choses très bien. Est-ce que sa vie était une vie qui reflète cette sagesse en pratique? Non, c'était complètement confus. Il avait des problèmes. Pourquoi? Parce que c'était pas une sagesse applicable. Mais quand Dieu révèle, il dit, c'est possible pour avoir des gens dans le même lieu, ici, et je veux pour moi-même avec mes propres yeux, quelqu'un à côté de moi, et la parole vient, et quelqu'un prêche, et je dis, wow, ça c'était pour moi. Et la personne dit, je veux rien. Parce que peut-être son cœur était pas préparé. Peut-être il n'était pas touché, peut-être parce que c'était pas une parole à propos pour lui. Mais ici, en train de parler d'une foule de gens, un peuple, inclus avec les pharisiens et les scribes et les sadducéens, les experts de la loi qui peuvent mémoriser l'Ancien Testament, et c'est là, mais c'était pas là. Il peut pas vivre ces choses. Mais les enfants sont simples. Dieu donne sa sagesse. Il révèle aux gens simples. C'est pas besoin que j'aie tous les diplômes plus que long que mon bras. Non, c'est le fait que j'ai un cœur ici. Et le cœur simple, dans un monde qui est hyper compliqué, à chaque niveau on ajoute des solutions, on trouve plus de complications. Et quelqu'un qui dit, je suis écrasé, je suis humilié, j'ai besoin de ta simplicité, Seigneur. Quelqu'un qui dit, je cherche pas d'avoir une explication énorme comme pour les sciences d'astronomie et etc. Comment la propulsion d'un rocket, tout ça pour aller explorer une autre planète ou un système solaire. Non, je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de connaître dans un sens personnel le oui. Pas besoin. L'institut biblique est différent d'une université. Je vais juste donner un peu de publicité pour l'institut biblique. C'est d'apprendre ici. On n'a pas besoin d'être intellectuel ici, on a besoin d'avoir un cœur ici. Et si nous avons un cœur ici pour recevoir, on va apprendre dans chaque moment, pas juste dans une salle. La salle va être une part essentielle pour apprendre ensemble. Mais après, de vivre par chaque situation de la vie, c'est possible. Parce que je suis comme la sagesse en Jacques chapitre 3. Je suis doux. Matthieu chapitre 11, verset 28, 29, 30. Je suis doux et humble de cœur, Jésus a dit. Et Jacques chapitre 3, c'est la même attitude. Que je peux écouter et je peux être... quelqu'un peut parler avec moi, je peux comprendre, je peux expliquer, je peux recevoir de cette personne. Humility. Ça, c'est un mot qui n'est pas utilisé dans ce monde. Mais c'est essentiel pour la révélation de Dieu. Parce que je n'ai pas besoin d'avoir une bonne journée. Je n'ai pas besoin de nécessairement avoir des bonnes émotions. J'ai besoin d'être écrasé. J'ai besoin de dire, Seigneur, au secours, aide-moi, j'ai besoin de toi. D'avoir ensemble, soit sans toi, Jésus, c'est David qui a dit, le roi David, il a dit, « Oh, je soupire pour ta présence. » Je voudrais boire de toi, Seigneur. Je suis dans un lieu aride. Mais la chose que je cherche plus, et pas de boire l'eau, c'est de boire ta présence, ta parole, d'être nourri par toi. Et c'est ça qui compte. Et quand Jésus a vu les gens qui avec cette queue, il a dit, oui, c'est eux que je peux révéler. Merci Père que tu as révélé aux enfants. Et là, les pharisiens sont là, ils écoutent, mais parce qu'ils ont un sac sur la tête, ils sont complètement aveugles et le cœur fermé. Dieu cherche les cœurs ouverts. L'Église est un lieu qu'on cherche aussi ensemble. On n'est pas des experts, on n'est pas l'élite, on est des gens plus humbles, le plus écrasés. Et les gens qui cherchent pour connaissance ici va passer toujours à côté. La vérité est devant, clairement devant nous. La vérité est l'expression de son amour. Tous les jours. Le bras ouvert, venez à moi. Venez à moi. La solution est là. Et ça, c'est la clé de notre vie. Hébreux chapitre 4, verset 2. La génération qui a marché dans le désert avec Moïse, qui a vu les miracles, le man, le pain qui descend du ciel, d'être nourri dans un endroit aride, d'avoir l'eau qui sort d'un rocher parce que Moïse était appelé de frapper et l'eau a sorti. La mer rouge séparée afin que le peuple puisse sortir. Les Égyptiens morts. Tous les miracles que Dieu a fait en Égypte. Les plaies d'Israël pour arrêter, d'Égypte, pour arrêter l'orgueil de Pharaon et laisser le peuple aller. Et ce même peuple, quand Dieu parle, il ne peut pas mélanger, il ne peut pas mêler en verset 2 la parole avec la foi. Ils sont là, mais ils ne sont pas là. Ils sont là, mais le cœur pas là. Dieu nous appelle de ça. Parce que quand il révèle, quand il y a une illumination, quand la parole est ouverte et exposée, Dieu peut changer nos vies dans un instant. Il peut parler et quelqu'un est guéri de quelque chose qui était là pour 20 ans. La parole, l'entrée, la révélation de sa parole est claire. Ça veut dire quoi? Je vais utiliser cette illustration. Je sais, la dernière fois, c'était pas très marché. La révélation de quelque chose parle d'une entrée, un accès. Donc, cette salle, imagine cette salle est sombre. OK? Illustration. Sombre. Je représente la parole de Dieu et la lumière de Dieu. Je ferme la porte. Je suis là. La salle reste sombre. La parole entre. Je dis, entrez, Seigneur. Mon cœur est préparé. Vous pouvez dire, vous pouvez entrer. La porte est ouverte. La lumière, la parole, la vie de Dieu illumine. Ça, c'est la révélation de sa parole en Psaume 119, verset 130. Et il donne sagesse à ceux qui sont simples, humbles, les bébés, les enfants, les petits-enfants. Le seul qualificatif, le seul caractéristique ici dans une église et dans toutes les églises qui ont scène, doctrine, bonne doctrine et présent Christ, c'est pas que nous sommes riches, pas que nous sommes pauvres, pas que nous avons beaucoup d'expérience, pas que l'on était chrétien depuis 20 ans. C'est que nous avons un cœur, et en Ésaïe chapitre 66, on tremble à sa parole, on a un respect pour sa parole. On est émerveillé devant lui. C'est ça qu'il cherche. Il cherche ça, cette caractère. Et donc, Dieu parle. Quelle est la chose que je peux faire? Le pasteur ou un prédicateur, autre prédicateur peut préparer le message, peut étudier. Et ça, c'est bien. C'est indispensable. Nous avons besoin d'un pasteur enseignant pour être un berger et conduire le peuple. Et parler et voir comment Dieu touche le cœur. Mais j'ai besoin de vous. Dieu, dans un sens, veut notre engagement. Et ça, c'est la raison que l'église locale existe sur la terre. Que Dieu va ensemble et va mettre ensemble les berges, les brebis. Il veut dire, viens, suis-moi. Il veut utiliser un pasteur de faire la même chose. Je vous exhorte que chaque fois que nous faisons une activité, et on ouvre les paroles, que vous avez une attente que Dieu peut parler. Est-ce que quelqu'un dans cette salle peut-être a des problèmes personnels dans la vie? Est-ce que, je peux pas dire autrement. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais des problèmes dans sa vie? Oui, c'est, wow, il faut prendre une photo. Il est comme le dodo, il était extinct, il n'existe pas. Non, on est tous des problèmes. Donc, de traiter des problèmes, quelle est la solution? Il faut aller dans un cabinet d'un médecin, n'est-ce pas? Si c'est quelque chose de physique. Oui, ici, nous avons des problèmes qui sont liés avec les choses spirituelles. Donc, quel est le meilleur endroit? Approcher à lui, écouter sa parole. Quand la Bible est ouverte et la parole est partagée, wow, j'étais prêt pour ça. Les Béréens, en Actes chapitre 17, sont un groupe de croyants. Quand Paul, dans un voyage missionnaire, arrive, c'est des hommes, des gens en fait, qui peuvent vérifier les rouleaux de la loi, que ce que Paul est en train d'enseigner, ils sont déjà préparés, ils ont dit on va vérifier après, quand il a parti. Wow, on regarde ensemble après. Si nous avons cette attitude, c'est excellent. Notez les versets. C'est pourquoi que c'est bien d'avoir un carnet et de noter quelque chose. Peut-être Dieu va parler après. Oh, je dois retourner ça et regarder. Ah, je vais vérifier ça. On oublie, on a une tête remplie de beaucoup de détails. C'est important. C'est important de noter des choses. Ah, ok, il a dit ça, je vais répéter. Mais il a dit ça aussi le dimanche avant. Intéressant, il y a une connexion ici entre les deux prédications. Voir les avantages, les bénéfices de noter des choses et méditer. L'homme, psaume 1, verset 2. Heureux est l'homme qui médite jour et nuit dans la parole. Jour et nuit. C'est préventif parce qu'il ne va pas passer à côté du plan de Dieu. Il ne peut pas rester avec les gens qui ne sont pas édifiants de tout et qui ne croient pas. Il va dire, mon chemin est dirigé. Bonne direction. Et la parole était comme un sens préventatif de protéger ma vie en avance, avant que les choses passent, pas juste après. Le médecin chinois, les médecins pensent plutôt les choses en avance, de garder la santé. Et si vous avez un problème après, bien sûr, le médecin est là. Mais la clé est ça, c'est d'être préventatif. Et la parole de Dieu est la même chose, c'est préventatif. Si je veux avoir une vie qui marche avec Dieu et d'avoir mes pensées en autre, c'est bien d'accepter, ok Seigneur, je vais écouter, je vais préparer. Et en plus, je peux vous dire, quand je entre dans la salle et je suis prêt à prêcher, c'est un délit, c'est un délice, c'est une joie de prêcher parce que je vois les cœurs ouverts. Je suis pasteur, je ne veux pas que vous pensez d'être paranoïque, qu'est-ce que je fais. Mais des fois, je peux voir les visages ouverts. Et je dis, waouh! Je ne suis pas nécessairement expert de langage de cours. Mais quand je vois un visage ouvert en train de recevoir la parole, je dis, waouh! Mon dimanche, après, je dis, waouh! Un bon dimanche pour moi parce que cette personne est en train de boire littéralement la parole. Je vois ça. Je vous encourage, si vous avez préparé vos cœurs, vous êtes humble, vous êtes brisé, vous êtes préparé. C'est un plaisir de prêcher ici. C'est pourquoi à Paris, quand on visite Paris, c'est tellement wow de prêcher là parce que l'assemblée a déjà un cœur préparé. Tous les orateurs, tous les prédicateurs qui visitent pour la conférence de Paris disent toujours un plaisir d'être ici. C'est nourrir l'onction, nourrir la prédication. Et on est conduit par le Saint-Esprit. C'est vos questions dans vos cœurs, peut-être, qui nourrissent la direction de la prédication, peut-être parce que j'ai des notes avec les points précis ce matin. Et je suis en train d'aller dans une autre direction. Peut-être quelqu'un ici dans cette salle avec une question dans le cœur. Et le Seigneur a dit, cette direction, cette direction. Et pour le pasteur, c'est un plaisir parce que c'est un marche par la foi de suivre la direction. Après, j'ai préparé toutes les notes et dit, OK, Seigneur, tu es en train de me diriger. C'est un marche par la foi pour moi. À ce moment précis, c'est un plaisir. Donc, voyez comment le corps de Christ n'est pas juste le pasteur et le louange. Non, c'est chacun de nous ici dans cette salle joue un part. Et comme je dis hier pendant le temps des hommes, chacun a sa place. Chacun a sa place. Et les visiteurs, vous avez votre place aussi. Et si c'est la volonté de Dieu, et Dieu dit, cette église, et vous êtes en train de visiter, écoute sa voix. Et si c'est OK, je vais vérifier ailleurs, OK, que Dieu vous bénisse. Mais écoutons la voix de Dieu. Je sais qu'est-ce qu'il faut faire de chercher une église locale. C'est important d'être précis et d'avoir des idées, de discerner l'onction. Est-ce que l'amour est là? Est-ce que je suis accepté? Est-ce que la parole est partagée équilibrement, précisément, dans un bon contexte? Important. Est-ce qu'il y a une communion après? Est-ce que je vois les gens en train de vivre quelque chose? Et c'est vrai, et j'expérimente la joie. Dernière chose, discernons la grâce de Dieu. Barnabas, Actes chapitre 11, verset 25, il avoue la grâce de Dieu à Antioche. Qu'est-ce qu'il avoue? Il avoue liberté, liberté. On est libre. Et la joie n'est pas l'hypocrisie, les gens qui ont une joie d'être ensemble. La joie qui est liée avec le fruit de l'esprit en Galates chapitre 5, verset 22. Et le désir d'être là, et le fait qu'on peut rigoler, et nous avons un humour sanctifié. Je sais, mon humour est un peu bizarre, c'est britannique, mais de voir qu'on peut rire, on peut être sérieux sur les choses qui comptent, et on peut être pas sérieux sur les autres choses, parce que la vie est lourde des fois, et nous avons besoin de ça. Donc, révélation, je vous encourage à terminer cette prédication. C'est un devoir de chacun. Fais les notes, note les versets. Ah, dimanche passé, il a parlé de ça. Dimanche, il parle de ça. Qu'est-ce qu'il va parler prochainement? Une attente dans le cœur. Je me régale, je suis en train de préparer pour le dimanche prochain. Mais en plus, je peux être là pour le mercredi, je peux être là pour le temps à Sion. Je peux préparer mon cœur pour les activités parce que Dieu va parler. Et quand Dieu parle, des choses changent dans nos cœurs. C'est d'avoir cette foi. Je crois que Dieu est plus grand de mes problèmes Et quand la parole est ouverte, il vient, il sème quelque chose, et je dis, waouh, je suis une personne complètement transformée. Je ne suis pas la même personne qui entre dans la salle. Ça peut passer. On n'a pas besoin de des miracles de guérison spectaculaires. Un miracle de guérison est quelqu'un qui était en train de vivre dans quelque chose, qui est en prison et libéré dans un instant parce que Dieu parle. Est-ce qu'il peut faire ça? Oui. Lazare sort de le tombeau. Il a donné vie quand quelqu'un est mort. Comment plus il peut faire avec nous qui sommes spirituellement vivants? Et peut-être nous avons des soucis nous-mêmes et des problèmes. Et nous avons des problèmes ici et des problèmes là. Et la meilleure solution, quand Dieu ouvre sa parole, waouh, merci Seigneur. Je vous encourage, comme Barnabas a fait, continuons avec Dieu. Continuons d'être réunis, Hébreux chapitre 11, verset 10, verset 25. Continuons. Quand nous avons quelque chose, qu'on peut être ensemble, avoir une attente pour ça que Dieu peut faire. Crois plus en lui que vos émotions. Mes émotions sont mensongères. Oui, je ne sens pas très bien. Oui, exactement la raison pourquoi il faut être là. Dieu peut guérir dans un instant. Dans un clin d'œil, Dieu peut changer tout. Est-ce qu'on peut croire le Seigneur ce matin? Waouh, il est bon avec nous, n'est-ce pas? On va prier, on va terminer. Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour la puissance de ta parole. Pour le pouvoir, la puissance quand tu parles. Et quelque chose entre nos cœurs et on est transformé pour l'éternité. Merci Seigneur de bénir chacun de nous. Encourage-nous, fortifie et qu'on peut passer un bel moment de communion ensemble. Et on peut reposer dans ton amour. Merci Seigneur. Amen.